Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 18 ans. J'aurais dû être en deuxième année de CFC et de maturité professionnelle pour être assistante socio-éducative, mais j'ai dû arrêter cette année et j'espère pouvoir recommencer l'année prochaine. Je suis passionnée d'art en général, plus précisément de peinture et de dessin. Je souffre d'anorexie mentale et de boulimie. Moi, l'anorexie, chez moi, elle est surtout restrictive, avec beaucoup d'aliments interdits, ce qui engendre aussi beaucoup de compulsions après. C'est surtout quand mon corps n'a plus assez de nutriments pour vivre et du coup, j'ai des sortes de petites crises où je mange des aliments pour pouvoir survivre. Donc c'est souvent pas vraiment des choses logiques et c'est en dehors des repas, aussi avec beaucoup d'hyperactivité. Mais moi j'ai jamais eu d'acte de purge parce que je suis hémétophobe et donc pour moi c'est un sentiment impossible. Rien qu'à quand j'ai la gastro c'est très compliqué. Sinon la boulimie ça s'est manifesté par beaucoup de crises, que des moments dissociatifs, souvent engendrés par des émotions trop fortes où je mangeais des aliments en quantité extrême et des choses qui avaient souvent pas de sens. Ça pouvait vraiment être tout et n'importe quoi, en fait tout ce que j'avais sous la main. Après ces crises j'avais beaucoup d'hyperactivité. Je retournais dans des phases restrictives. Contrairement à peut-être d'autres témoignages, moi c'est assez compliqué de savoir à quel âge elle s'est manifestée pour la première fois, parce que j'ai grandi dans une famille où les TCA sont très présents. J'ai un peu grandi dans ce milieu-là. Premier symptôme, réellement, ce serait autour de mes 10 ans. J'imagine que c'est à peu près à ce moment-là. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai toujours été passionnée de cuisine. Et donc mon rêve a toujours été d'ouvrir un restaurant. J'adorais aller au restaurant avec mes parents. Malheureusement, c'était souvent des moments très conflictuels, parce que j'ai toujours eu très peur du sentiment de satiété, parce que ça me donnait très très mal au ventre et donc ça a amené beaucoup de conflits. Mais sinon je dirais que les premiers vrais signes d'anorexie mentale ça devait être autour de mes 10 ans. L'hyperactivité en tout cas pour ma part c'était un besoin excessif de un peu dépenser tout ce que j'avais pu manger avant, où ça pouvait se manifester par j'allais 2 à 3 fois par jour à la salle de sport, je pouvais aller courir pendant des heures, je me souviens un souvenir qui m'a marqué, je suis rentrée du travail, ça devait être 14h, et je suis partie marcher et courir et je suis rentrée chez moi, c'était 20h. En fait, j'ai fait le plus possible de sport, j'ai marché, j'ai couru, vraiment dans la volonté de en fait dépenser tout ce que j'avais pu manger ce jour-là. La partie très addictive qui ressemble, enfin qui est une addiction aussi et qui peut être aussi comparée avec l'addiction aux substances, c'est que après ou même pendant cette hyperactivité, t'as des shots de dopamine et ça te fait te sentir un peu accompli. Moi, je sais que par exemple quand je partais de la salle de sport, j'avais le sentiment où j'avais un peu réussi ma journée, je me sentais beaucoup mieux et donc j'étais là, bah en fait ça procure un sentiment de plaisir en fait. Ça crée une addiction autour de ce sentiment de dopamine et de plaisir qui est dur d'en s'en détacher après quoi. Moi je sais que les fois où par exemple je rentrais chez ma mère ou quand j'étais en internat où j'avais beaucoup moins la possibilité d'avoir cette hyperactivité libre entre guillemets, où ça me mettait dans des colères extrême parce que j'avais l'impression de pas avoir pu me dépenser comme je le souhaitais et que donc tout ça c'était contenu en moi. Moi je pense que c'est surtout là d'où venait mon addiction à cette hyperactivité où en fait moi j'avais la possibilité de le faire, j'intériorisais toutes mes émotions, après ça explosait très souvent sous forme de crise. Donc je pense que surtout la partie addictive c'était en fait c'était une nécessité dans mes journées vraiment de ressentir cette souffrance, en fait, c'est clairement une souffrance qui amène un sentiment de plaisir, ce qui est assez paradoxal. Mais oui, c'était devenu vraiment une nécessité. J'ai une famille dans laquelle les troubles du comportement alimentaire de toutes sortes sont extrêmement présents. Je viens d'une famille d'émigrés qui est arrivée en Europe dans une situation de très grande précarité. La nourriture, c'est quelque chose qui a pris énormément d'importance dans ma famille parce que c'était quelque chose qui s'était fait rare un temps. Maintenant qu'on avait la chance d'en avoir, et c'était impossible d'en jeter, d'en gaspiller. C'était complètement très mal vu et aussi c'était aussi les moments où on se regroupait tous ensemble. Et ça a toujours été des moments très compliqués avec beaucoup de conflits dus aussi aux différentes cultures qu'il y avait dans ma famille où c'était personne se comprenait vraiment, accompagné de beaucoup de remarques sur mon physique, sur ce que je mangeais, sur ce que ma mère mangeait, sur ce que ma tante mangeait, donc c'était jamais vraiment facile les repas. À mes 3 ans, mon père est tombé malade d'un cancer. Jusqu'à mes 9 ans, il a eu plusieurs rechutes. Quelques jours avant mes 10 ans, il est décédé. Donc j'ai fait une grosse dépression à ce moment-là. Je me suis retrouvée à m'occuper seule de mon petit frère, parce que mon grand frère était beaucoup plus âgé, et lui il sortait beaucoup pour essayer de gérer un peu son deuil, et ma mère était moins présente parce qu'elle devait aussi gérer son deuil à elle. Donc je me suis retrouvée vite seule avec mon petit frère. Enfin, je devais tout gérer. Enfin, moi je savais pas comment ça se passait. beaucoup de souffrance. Et vu que je me suis un peu arrêtée à cette année de ma vie, de mes 10 ans, bah en fait, j'ai jamais voulu évoluer, j'ai jamais voulu changer de corps, parce que j'avais l'impression que c'est ce qui me ramenait à mon enfance, sachant qu'elle avait été genre coupée très abruptement. Et aussi par un refus de prendre du poids, de garder le poids que j'avais à mes 10 ans, aussi de refuser de dépasser un certain poids, parce que c'était celui de ma mère. Pour moi, c'était inconcevable de peser plus que ma mère, sachant que c'était ma mère et qu'elle est plus grande que moi en plus de ça. Donc je pense que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué. Après, bah, des violences que j'ai pu subir pendant mon adolescence. Donc je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qui a fait que la maladie a vraiment pris place dans ma vie. Chez moi, la maladie, elle a eu beaucoup, beaucoup d'alternance de phases. Ça n'a jamais été régulier, ça a toujours fait un peu des cycles. Donc elle a été très longtemps en sommeil. Je pense que la plupart de mon enfance, elle a été en sommeil, avec souvent des petites réapparitions, mais jamais de pics extrêmes. Mais j'avais toujours des pics à la fin de l'hiver, parce que je ne supportais pas mon corps. J'avais grandi, bah encore une fois, c'est encore très lié à mon éducation, mais j'avais grandi avec une mère, avec un physique qui correspondait aux normes de beauté qu'on pouvait voir par exemple sur les défilés des plus grandes marques. Et que donc pour moi c'était le physique dit normal. Je me devais d'avoir ce physique pour l'été parce que c'est bah, la période où où tout le monde voit son corps. J'ai longtemps été considérée comme trop maigre par les gens par mon entourage quand j'étais enfant. Moi, on m'a jamais expliqué que le corps à l'adolescence pouvait évoluer, qu'on pouvait prendre des formes. Que le jour où ça m'est arrivé, bah, ça a été la panique parce que je comprenais pas du tout ce qui m'était arrivé. Donc je suis passée de me faire traiter d'enfant au début de mon adolescence parce que j'avais pas de forme à planche de pain parce que j'avais peu de forme comparé aux autres. Donc ça a engendré beaucoup de bah, pics d'hyperactivité à la fin de l'hiver. Après aussi par rapport à bah, la nutrition, que j'ai une mère qui souffre d'anorexie et que les féculents ont toujours été très diabolisés chez moi. C'est un rituel que j'ai pris en fait pour moi. Manger des féculents, c'était pas nécessaire. Comme sauter des repas, c'était normal parce que bah, ça arrivait souvent que ma mère oublie genre les repas, et donc pour moi c'était quelque chose de complètement normal. Mais par cette diabolisation des aliments, quand je faisais des crises, j'avais extrêmement honte, donc je cachais tout sous mon lit, j'allais voler à la cave pour pas que ça se voit dans la cuisine, je ne jetais pas les papiers, les emballages pour pas que ça se voit, parce que je sais qu'il y avait un certain contrôle de tout ce qu'on avait à la maison, de savoir que s'il y avait un paquet de biscuits qui disparaissait, bah tout le monde allait savoir, et c'était un peu la chasse à qui à manger ce paquet de biscuits. Après, j'ai fait une phobie scolaire à mes 13 ans où j'ai eu énormément de crises, mais on comprenait pas que c'était un aspect du trouble du comportement alimentaire. On pensait réellement que j'avais des problèmes au niveau des intestins, donc j'ai fait beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup d'analyses où en fait on n'a jamais compris ce que c'était réellement, et ce qui a engendré énormément de vomissements, mais qui n'étaient pas volontaires, qui étaient surtout dus à mon anxiété, où en fait c'était la seule façon pour moi que mes émotions sortent. Après ça, je suis partie vivre en internat pour un peu me couper de ma phobie scolaire que j'avais subie ici. Et en Angleterre, les repas étaient très tôt, donc juste après la fin des cours, il me semble que c'était vers 5h30, 6h. C'était toujours en présence bah, de mes amis, ce qui pour moi a toujours été quelque chose de très compliqué, parce que j'avais très honte de manger devant les gens, donc je me coupais un peu de mes ressentis physiques, plus ressentir le sentiment de faim. Après, pendant la nuit, bah, j'avais beaucoup de compulsions, et souvent avec des aliments dits non sains, parce que bah, c'était un peu les choses qui étaient facilement accessibles dans la ville où je vivais, parce que c'était une ville très pauvre. Donc on avait très peu d'accessibilité à tout ce qui était produits frais, donc on se nourrissait exclusivement de produits qu'on pouvait conserver pendant longtemps. J'avais aussi énormément d'hyperactivité, mais le problème c'est que je partageais ma chambre avec une autre personne. J'avais développé un peu des stratégies pour avoir l'hyperactivité sans qu'elle le sache, donc je fermais la porte à clé pour pas qu'elle l'entre. J'avais préparé genre un programme de sport que genre je cachais sous mon lit pour pas que ça se voit. Une fois elle a voulu entrer dans la chambre à ce moment-là, et la porte était fermée, et là j'ai eu un sentiment de honte extrême. Donc j'ai arrêté l'hyperactivité, ce qui a bah, créé beaucoup plus de problèmes par la suite, où j'ai complètement de nouveau explosé en vol. Donc ça a été une période assez compliquée, mais quand je suis revenue en Suisse, j'ai reménagé chez ma mère, mais mes deux frères étaient partis de la maison. Donc je me suis retrouvée seule avec ma mère, qui était pas forcément très présente à la maison. Et bah, vu que j'étais seule et assez jeune, et l'envie de sortir et de voir des amis et de profiter de ma vie, j'oubliais entre gros guillemets de manger, aucunement par pensée maladive, juste parce que bah en fait c'était normal chez moi, c'était quelque chose de qu'on m'avait appris dans mon éducation que c'était pas forcément nécessaire. Donc ça a été Ça a été compliqué parce que ça a engendré aussi énormément de crises de nouveau, où ma mère faisait des courses en énorme quantité pour les week-ends parce que mes frères revenaient et que c'était un peu leur période d'adolescence. Donc il fallait avoir beaucoup à manger pour eux chez moi. À la vue de toute cette nourriture, je faisais énormément de crises et de nouveau je cachais tout sous mon lit, je volais beaucoup dans les réserves, jusqu'au point où ma mère a mis un peu tout ça sous clé parce que c'était devenu ingérable, sauf qu'elle pensait que c'était mon petit frère. Donc c'était beaucoup de mensonges, beaucoup de choses non dites par souffrance, mais qui n'étaient pas vraiment comprises, que même moi je comprenais pas d'ailleurs. J'ai fait donc une deuxième phobie scolaire à mes 16 ans, et c'est là où je suis partie vivre pendant un an chez ma grand-mère, donc ma grand-mère dont je parlais avant, qui est issue de l'émigration. Là ça a été un peu le début de la fin, parce qu'elle contrôlait énormément ce que je mangeais, je m'étais engagée à moi m'occuper des repas du soir, mais lorsque c'était elle qui les faisait, moi ça me mettait dans des colères extrêmes, parce que je m'étais engagée à moi faire les repas avec ma façon de cuisiner, qui était d'une façon qu'elle avait des façons de cuisiner à l'opposé des miens, donc ça me mettait en colère. C'est à ce moment-là que je suis entrée dans le monde du travail, donc j'ai été projetée dans une vie d'adulte très rapidement. Je me suis retrouvée dans une ville que je ne connaissais pas, avec personne de mon âge que je connaissais, avec que des adultes. À ce moment-là, j'ai mes collègues à l'approche de l'été qui ont décidé de faire des jeûnes intermittents ou des régimes. Moi, ça a été extrêmement dur d'accepter que, en fait, d'un côté, elles allaient avoir un corps que j'aurais souhaité avoir, mais que physiquement, j'étais pas capable de faire un régime, parce que restriction, pour moi, voulait dire compulsion ou crise. Donc, c'était un cercle vicieux. À ce moment-là, j'ai ressenti un mal-être extrême à l'idée que l'été allait arriver. Mon premier vrai pic d'anorexie restrictive, où j'ai entamé un jeûne où j'ai complètement arrêté de me nourrir parce que ça c'était devenu insoutenable la vue de la nourriture pour moi. J'ai développé une addiction à la balance à ce moment-là où je me pesais 2 à 3 fois par jour, où je notais tout ça sur mon téléphone pour vérifier un peu que mon poids soit stable. Et j'avais aussi noté tous les aliments que je mangeais dans la journée sur mon téléphone, à l'intention de diminuer un peu chaque jour. Et ça a été extrêmement compliqué pour ma mère d'entendre tout ça, parce que je crois que c'est la première fois qu'elle a réalisé qu'en fait sa maladie avait aussi pu m'impacter à ce point-là, et que j'imagine c'est pas facile pour une mère d'entendre ça. C'est là où ma médecin a tiré un peu la sonnette d'alarme et a voulu que j'aille dans un centre pour personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Mais moi je le voyais absolument pas comme quelque chose de problématique, parce que pour moi, c'était de nouveau la normalité. Jusqu'au jour où on était arrivé dans une période de canicule, donc je travaillais à ce moment-là, on est allé à la piscine avec les enfants. Moi, je refusais de mettre des habits dits légers, et donc pour l'été, donc je suis allée en jean. En rentrant, j'ai fait un malaise. Donc ma collègue a dû m'amener des habits d'été, sauf que ça a été extrêmement violent pour moi d'accepter que dévoiler mon corps au final. Ça a été vraiment le déclic pour ma famille de me dire, en fait, là, il faut aller dans un centre. Et j'ai refusé parce que je me considérais pas comme quelqu'un de souffrant de troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai fait un pacte avec ma mère en disant que chaque repas que je mangeais, je lui envoyais une photo. Au bout de X repas faits, c'était bon, j'avais pas besoin d'aller dans le centre. Ça a été le premier réel pic. Alors là, je pense où c'était réellement le début de la fin, c'est quelques mois après, j'ai pris un appartement seul, donc mon premier appartement seul à mes 17 ans. Du jour au lendemain, on se retrouve de passer d'enfant à adulte, où en fait on doit s'occuper 100% de nous, de nos repas, de nos levées, de nos couchers, de l'organisation, des courses. C'est là où j'ai réalisé qu'en fait, dans mon éducation, on m'avait pas expliqué comment tout ça fonctionnait, on m'avait pas expliqué que les repas c'était important, qu'il fallait aller faire les courses, qu'il fallait manger de tout. J'ai aussi, je suis tombée dans une addiction à une substance à ce moment-là, ce qui m'a au début permis de un peu gérer mon TCA parce que j'avais les périodes où dès que je consommais, après ça me donnait très très faim, donc je pouvais manger tout ce qu'il y avait chez moi, mais après ça me donnait beaucoup de culpabilité, donc de nouveau beaucoup d'hyperactivité, donc en fait c'était un cercle vicieux. J'avais beaucoup de crises d'angoisse à ce moment-là, dues à beaucoup de choses que j'avais pas réglées, de mon enfance notamment. Donc dans cette même période, ma mère a fait un burn-out et a dû être hospitalisée. Donc moi c'est quelque chose que j'ai extrêmement mal vécu parce que c'est moi qui ai dû gérer ma mère, c'est moi qui me suis retrouvée de nouveau seule avec mon petit frère parce que mon grand frère n'était pas en Suisse à ce moment-là. De nouveau à 17 ans, je me suis retrouvée avec la responsabilité d'un enfant sur les bras où en fait je savais pas quoi faire. J'étais perdue. Je devais gérer avec mon grand frère qui allait s'occuper de mon plus jeune frère, qui allait entre guillemets avoir la garde à ce moment-là. Donc c'est mon grand frère qui a eu j'étais sous curatelle de mon grand frère. Donc de nouveau, les rôles dans ma famille étaient complètement inversés, avec aucun repère en fait parentaux. Là, j'ai eu le sentiment de la Emma qui avait vécu un peu l'abandon de ses parents. Ça a été une phase où j'ai ça a été le début de la fin, moi je dis, où j'ai recommencé à consommer de plus en plus forte, je suis sortie le plus possible. J'ai fait énormément de crises parce que c'était la seule façon pour moi de sortir de mon mal-être, ce qui a fait que j'ai pris du poids, que mon corps a changé, même sans que je m'en rende compte. Le jour où je me suis rendu compte que mon corps avait changé, ça a été l'effet complètement inverse. Je suis repartie dans une phase d'anorexie restrictive. J'allais à la salle de sport 2 à 3 fois par jour. Je me levais 2 heures avant le travail pour pouvoir aller à la salle de sport. J'y retournais le soir, je faisais l'ouverture, la fermeture. À ce moment-là, j'ai aussi fait un burn-out à cause du travail où je subissais beaucoup de pression et ça se passait vraiment très mal. Donc ça a absolument pas aidé. Tout ça, c'était la période juste avant mes 18 ans et j'ai une croyance dont je ne sais absolument pas d'où elle vient, où j'étais convaincue depuis le plus longtemps que je me souviens que j'allais pas vivre jusqu'à mes 18 ans. Vu que tout ça, c'était juste avant mes 18 ans, et ben là, c'est une course contre la montre qui s'est instaurée où j'étais là, mais en fait, il me reste tellement peu de temps avant que je meure, malheureusement, et donc il faut que je profite. Et donc, profiter, ça voulait dire consommer, ça voulait dire sortir, ça voulait dire un peu maximiser mon temps. Et ça, ça m'a fait couler. Ben, manger était devenu vraiment impossible pour moi. Je me suis retrouvée de nouveau seule parce que du coup c'était la période des vacances, donc mes amis étaient plus autant présents qu'avant, donc je me suis retrouvée seule. Là, ça a été le plus gros pic de mon TCA où cet été je suis partie en vacances avec ma famille. Ça a été mon premier sevrage forcé parce que j'avais plus accès à la consommation là-bas. J'ai eu en fait le revers de la médaille où en fait c'est là où j'ai compris que la consommation m'aidait énormément dans mon TCA. En fait, c'était la seule façon que j'avais trouvé de pouvoir manger. Je suis arrivée en vacances où j'étais dans l'incapacité vraiment de manger, mais c'était vraiment physique, où je comprenais pas qu'il y avait une grosse part de mental. Pour moi, c'était complètement physique, que j'étais malade et qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans mon estomac, comme si j'avais attrapé genre une gastro. J'étais aussi complètement déshydratée, sauf qu'il faisait 35 degrés à 40 degrés tous les jours et donc je ne supportais plus le soleil, je sortais plus de ma chambre, je me nourrissais exclusivement de café parce que c'était la seule chose que je supportais encore. Donc là, ça a vraiment été un jeûne presque complet, suivi de certaines compulsions, mais ça a amené beaucoup beaucoup de tension dans ma famille parce que dès qu'on allait au restaurant pour vivre des moments soi-disant sympas, bah moi ça me mettait dans des colères extrêmes. Je partais des restaurants parce que l'odeur de la nourriture était insupportable. Là, ça a été vraiment impossible. Quand je suis rentrée en Suisse, ma mère, parce que j'ai fini les vacances avec des amis et pas avec ma mère m'a retrouvée dans un état où en fait j'étais incapable de marcher. J'avais eu envie de prouver aux personnes avec qui j'étais partie en vacances après que en fait j'étais bel et bien malade. Je faisais tout pour leur prouver qu'en fait, bah oui, j'étais anorexique malgré qu'ils me croient pas. Et donc ma mère m'a récupérée dans un état très critique où j'étais incapable de marcher, incapable de faire quoi que ce soit. Donc c'est à ce moment-là que ça a un peu tiré la sonnette d'alarme. J'avais plus le droit de rester seule à la maison, j'avais plus le droit de manger avec ma famille parce que c'était trop conflictuel. Donc ça a été une période très compliquée et s'en est suivi mon hospitalisation. Alors, je pense une des raisons pour laquelle je ne mangeais pas, c'est que j'étais... En fait, je me suis toujours extrêmement détestée, que ce soit mon corps ou autre chose chez moi, je me détestais. Et donc, j'étais convaincue que si je ne mangeais pas, ça allait me faire de moi une personne meilleure, que ce soit physiquement ou mentalement, ce qui fait absolument zéro sens si on réfléchit, mais c'était un peu cette croyance que j'avais. Aussi, le fait de ne pas manger, ça me procurait une sensation de plaisir, mais de réussite, où j'avais l'impression chaque jour de finir un marathon, où je me disais « Ah, je l'ai fait, mais demain je peux encore faire mieux ». C'était un cercle vicieux parce que je me disais toujours que je pouvais encore plus me pousser. Du moment que je me poussais un peu moins et que j'écoutais un peu plus mon corps, la culpabilité énorme, donc je me redevais de me pousser 3 fois plus qu'au début. C'était surtout sur l'aspect de... En fait, j'avais l'impression de réussir quelque chose dans ma vie parce que je me sentais tellement nulle autre part, enfin dans tout le reste, dans tous les autres aspects de ma vie, que vraiment c'était... pour moi une réussite. C'était aussi pour moi une façon de gérer mes émotions. Depuis que je suis enfant, j'ai intériorisé toutes mes émotions. Donc je ne savais absolument pas comment ça se gérer, sachant que je suis hypersensible et que les émotions sont décuplées chez moi. Bah, les jours où j'avais des émotions, je me retrouvais toute seule et j'étais là, mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait? La première solution, ça a été le trouble du comportement alimentaire, puis la consommation, jusqu'au jour où c'était plus possible. Il y a un événement qui m'a beaucoup marqué par rapport à ma maladie, où aujourd'hui j'en rigole, c'est plus un rire, je me dis que j'étais tellement dans le déni. C'est juste après que je sois rentrée en Suisse de mes vacances cet été, je venais de terminer mon rendez-vous psy, donc avec ma psychologue de l'extérieur. Elle a appelé ma mère et elle a dit à ma mère « Vous devez emmener votre fille aux urgences, elle est dénutrie et complètement déshydratée, là c'est vital, genre faut vraiment qu'elle aille se faire soigner, ça peut être extrêmement dangereux. Moi, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, maman, ce soir, je vois une de mes amies, donc est-ce que tu peux m'amener là-bas? Donc j'ai menti à ma mère en lui disant que j'allais voir une de mes amies. Au final, je suis allée à une soirée. J'ai préparé un barbecue pour tous mes amis parce qu'on fêtait un peu le retour des vacances de tout le monde. Donc j'ai vraiment préparé tout le barbecue, j'ai servi tout le monde et arrivé à table, tout le monde m'a dit mais tu manges pas? Et j'étais là bah non. Et personne comprenait et ils m'ont demandé pourquoi et je dis bah j'en ai pas besoin. À cette soirée, bah, de nouveau j'étais en plein dans l'addiction à la consommation. J'ai fini par aller en boîte de nuit. En fait, maintenant, ça me marque et j'en rigole parce que je me rends compte qu'avoir une addiction à la substance, ça m'a fait oublier et ça m'a coupé en fait de tous mes ressentis physiques. Dans cette période-là de mon TCA, je n'étais plus capable de marcher, mais en fait, sous consommation, eh ben, j'oubliais toutes mes souffrances. Pour moi, c'est un souvenir qui m'a marqué de voir que cette maladie m'a poussée tellement à mentir, à me dépasser, à prouver aux autres que j'étais quelqu'un de bien, que j'allais bien en fait et que je tenais encore debout. Alors absolument pas et que j'aurais dû être aux urgences à ce moment-là d'ailleurs. Donc avec le recul, je me rends compte à quel point genre la maladie elle peut nous manipuler. Moi je me suis toujours considérée comme quelqu'un de à part, où je me suis toujours dit que j'étais bah, plus forte que la norme, où je me considérais littéralement comme Wonder Woman, tout en grande modestie bien évidemment. J'étais convaincue que je pouvais pousser plus mon corps que les autres, mais que chez moi il n'y aurait pas de conséquences, que je pouvais aller plus dans l'excès, mais que tout irait bien, parce que bah, c'est moi et que moi je suis capable de plus. Les réactions de mon entourage ont été très différentes et pas faciles à entendre. Le jour où ma famille a réalisé que j'étais vraiment bah, malade, c'était quand justement pendant les vacances cet été, où ça a amené énormément de conflits parce que bah, j'ai deux frères qui sont très rationnels, qui comprenaient pas forcément les maladies psychiatriques. Pour eux, c'était juste un caprice de ma part, donc ça a été extrêmement conflictuel avec eux. Puis avec ma mère, ça a été tout autant compliqué parce qu'elle a énormément culpabilisé, mais elle s'est retrouvée dans l'incapacité de faire quoi que ce soit avec moi parce qu'elle a la même maladie que moi. En fait, la seule façon qu'elle avait trouvé de m'aider, c'était que je sois surveillée 24 heures sur 24 quand j'étais chez elle. Je devais toujours avoir quelqu'un si elle partait travailler, quelqu'un d'autre devait rester à la maison pour me surveiller. Comme je disais avant, je faisais pas les repas avec ma famille parce que c'était devenu trop conflictuel, mais ils me préparaient des plateaux avec des choses qui avaient aucun sens, genre plein de trucs différents pour voir si j'arrivais à manger. Et il est arrivé un jour où ma mère en pouvait plus. Je pense que c'était une telle souffrance qu'elle envoyait mon petit frère m'amener les plateaux. Mon petit frère me disait « Mais Emma, s'il te plaît, mange !» Genre. Et je voyais la peine dans ses yeux où vraiment il me regardait et il était là « Mais Emma, genre, je t'en supplie, juste fais un effort, j'ai pas envie de te perdre. » Ça, sur le coup, ça m'énervait parce que j'étais là « Oui, mais en fait, personne ne me comprend ici. » Je suis quand même retournée à la rentrée scolaire. Juste à l'école, j'ai arrêté le travail, mais j'avais l'interdiction de retourner vivre seule dans mon appartement, donc quand j'étais à l'école, je devais aller dormir chez une de mes amies. Si cette amie allait travailler le lendemain, ma mère m'envoyait des messages toutes les heures pour savoir si ça allait bien, et si je répondais pas, elle s'inquiétait, c'était des messages insistants, en mode « Emma, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc avec ma famille, ça a été extrêmement compliqué. Après, avec mes amis, j'en ai très peu parlé, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement tabou. J'en ai parlé avec mes amis les plus proches, de façon très vague, juste en disant que bah, ça allait pas, mais que je voulais pas entrer dans les détails. Un événement qui m'a marqué avec une de mes amies, où en fait, quand je suis rentrée de vacances, ma mère ne savait plus quoi faire avec moi, du coup elle a envoyé un message à cette amie, et elle lui a dit « Écoute, Emma est complètement en train de rechuter, est-ce que tu peux venir la voir ?» Avec le recul, je me rends compte à quel point j'ai pu aussi mettre de pression sur mes amis, et à quel point j'ai pu les faire souffrir, même si on n'en parle pas aujourd'hui. Donc ça, c'est pas facile avec le recul de penser à ça. Avec le restant de mes amis, je maîtrise le poker face, donc je maîtrise le fait de jamais laisser transparaître mes émotions. Et souvent, on m'a dit « Mais Emma, je vois que ça va pas », et j'étais « Ah non, si, tout va bien ». Jusqu'au point où, en fait, quelques jours avant mon hospitalisation, personne n'était au courant que j'allais me faire hospitaliser, sauf mes potes les plus proches, c'est-à-dire deux personnes. En fait, j'ai disparu de ma classe du jour au lendemain sans rien dire. J'ai disparu des soirées sans rien dire, parce que je ne voulais pas admettre que ça n'allait pas. Avec les relations amoureuses que j'avais, c'était extrêmement compliqué, car tous les hommes que j'ai pu côtoyer étaient des hommes dits un peu macho, un peu entre guillemets la représentation de la virilité par la société, qui avait une vision de l'anorexie extrêmement cliché, où en fait pour eux être anorexique ça voulait dire avoir la peau sur les os, atteindre un poids dangereux. Moi, dû à mon physique, je ne pouvais pas être anorexique. Moi, j'ai toujours cherché la validité masculine, dû à, je pense, la perte de mon père. En fait, d'entendre de leur part qu'ils me considéraient pas comme anorexique, c'était extrêmement violent, parce que de nouveau, je me sentais pas écoutée, pas validée par les hommes. J'étais entrée dans une course pour leur prouver. Je faisais tout pour leur prouver que si j'étais bel et bien anorexique. Les relations amoureuses étaient très compliquées. compliqué jusqu'à que je m'éloigne de tout ça parce que c'était devenu violent physiquement, violent verbalement pour moi. Juste je me dis là je rentre en hospitalisation et c'est pas le moment en fait. Avec ma famille c'est pas tous les jours facile. Mais ça va beaucoup mieux. Je suis éternellement reconnaissante du soutien que j'ai pu recevoir, notamment de la part de mes frères, parce que je sais qu'ils en ont pas mal souffert de me voir dans cet état-là. Ça n'a pas été facile de me voir en fait mourir lentement. Ça a clairement été douloureux pour eux. Actuellement, ils sont d'un soutien énorme. Lorsqu'ils mangent à côté de moi, ils me demandent toujours si ça me dérange ou pas, si c'est l'heure de ma collation, si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin qu'ils pensent à un autre repas pour moi. Donc ils sont extrêmement bienveillants envers moi. Après, là, vu que je suis retournée vivre avec ma mère, c'est pas toujours facile de cohabiter avec une personne qui souffre de la même maladie que moi. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment facile, mais j'essaye de me mettre dans ma bulle et de me dire que, en fait, oui, on souffre de la même maladie, mais personne ne peut sauver qui que ce soit. Et que le plus important, c'est de se sauver soi-même, en fait. Et même, ça peut paraître égoïste. Avec ma famille, je trouve que ça va mieux. Avec mes amis, la réalité de disparaître du jour au lendemain, c'est que j'ai perdu beaucoup d'amis, ce qui a été très douloureux pour moi et ce qui m'a un peu renforcé dans mon schéma où je me dis qu'en fait, bah, je suis jamais assez bien pour les autres. Donc j'en ai perdu beaucoup. Mais avec le recul, je me dis que c'est pas forcément qu'ils m'aimaient pas, c'est juste que aussi eux ils se sont retrouvés face à l'incompréhension que je disparaisse du jour au lendemain. Les seules nouvelles qu'ils avaient moi, c'est bah en fait elle est à l'hôpital. Donc je peux comprendre aussi leur point de vue. Avec les amis que j'ai gardés, on n'en parle pas, enfin on en parle peu, voire même pas, parce que je sais que certaines personnes en ont souffert. J'essaie un peu de faire abstraction de tout ça, de me dire que c'est ma vie, que ça me concerne, et que bah ça les concerne pas forcément eux, et que je veux pas encore plus empiéter sur leur vie, que je pense que leur avoir déjà fait assez souffert. Mais j'ai rencontré des personnes incroyables, ce qui est assez ironique, parce que quand je me suis fait hospitaliser, bah, je ne voulais pas me faire d'amis, et au final, je me considère beaucoup plus entourée qu'avant d'entrer en hospice. Alors pas forcément en nombre de personnes qui m'entourent, mais juste en soutien, et j'ai rencontré des personnes sur qui je pourrais probablement compter toute ma vie. Mes relations amoureuses, j'ai fait un énorme travail par rapport à ça sur ma relation aux hommes, sur arrêter de devoir avoir une validation masculine. C'est pas toujours facile. Enfin, comme on dit, le naturel revient toujours au galop. Parfois où c'est extrêmement compliqué d'accepter que bah, j'ai pas forcément cette validation masculine. Mais je fais un travail là-dessus et je sais que bah, c'est pas la priorité dans ma vie et que le plus important c'est ma santé. Première hospitalisation. J'avais 14 ans, je suis allée aux urgences psychiatriques de l'unité pour les enfants et adolescents. Je suis allée pas pour TCA, pour d'autres raisons, mais le TCA a une grande place dans cette hospitalisation. On était très peu dans ces unités, moi quand je suis arrivée on était 3. On mangeait toujours en présence de tous les soignants, donc on était 3 patients avec 3 voire 4 soignants qui scrutaient tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on mangeait, tout ce que... En fait tout. J'ai eu des très mauvaises relations avec ces soignants, en fait ne cherchaient pas à comprendre mon mal-être, mais comme, c'est triste à dire, mais comme gardien de prison, j'avais moins de visites que les autres. Mais je ne savais pas pourquoi. Je n'ai pas pu aller dehors pendant une semaine, donc je n'ai pas senti de l'air frais pendant une semaine. Donc moi, ça m'a mis dans une telle sensation de, en fait, d'enfermement. J'avais l'impression littéralement d'être en prison. J'avais besoin de me rebeller face à cette autorité que je supportais pas. Je supportais pas manger en présence des soignants et que je m'entendais mal. J'arrêtais de manger, je mentais, je cachais des trucs. Et donc c'était un très très mauvais souvenir, cette hospitalisation. Lorsqu'on m'a parlé d'une potentielle hospitalisation à mes 18 ans, ça a été en fait revivre un trauma. Parce que je me suis dit non, c'est impossible. Revivre ce que j'ai vécu pendant cette première prise en charge. J'avais 18 ans. C'est ma mère, ma psychologue et mon médecin de l'extérieur qui ont fait les démarches pour que je sois hospitalisée. Moi, je refusais. En fait, je pensais pas que c'était aussi grave, que j'avais pas besoin d'hospitalisation. J'ai dû faire des prises de sang et des électrocardiogrammes pour voir un peu l'état de mon corps. Et étonnamment, la prise de sang était toujours très positive, alors que j'étais complètement anémique le restant de ma vie, donc ce qui est très traître. Mes ECG étaient très mauvaise parce que donc j'étais en déshydratation, ce qui faisait que mon corps ne pouvait plus fonctionner correctement, et donc je suis arrivée avec un manque de potassium énorme, donc c'est ce qui bah, fait fonctionner le cœur notamment. J'avais trop de risques de faire un AVC, un peu comme point de négociation que j'avais trouvé avec tout mon réseau de soignants, c'était de leur dire que en fait si j'arrivais à remonter de ce taux de potassium à un certain taux, et ben en fait j'aurais pas besoin d'être hospitalisée, et tout le monde était d'accord avec moi. Le jour où mon taux de potassium est remonté, j'ai envoyé un mail au psychiatre de la clinique en lui disant que ben en fait c'était tout bon et mon taux de potassium était remonté, et qui m'a appelé et qui m'a dit oui mais Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais moi, j'étais dans le déni, j'ai dit à tout le monde, j'ai appelé ma psy, mon médecin, ma mère, super fière, en disant, regardez, mon taux de potassium a remonté. Les trois m'ont répondu la même chose, oui, bah, que tu peux rentrer en hospitalisation, tu rentres à la clinique Belmont. Donc ça a été une grosse trahison sur le moment. Pour moi, c'est comme si on avait fait un pacte. En fait, là, tout le monde me trahit et me plante un couteau dans le dos. Je suis rentrée à Belmont une semaine après, contre ma volonté. J'avais énormément d'appréhension à l'idée de rentrer à la clinique parce que je voulais absolument pas arrêter mes études, que j'avais déjà pris assez de retard comme ça sur ma vie, que je voulais profiter de ma vie en fait. De toute façon, j'y resterai une semaine maximum, que je suis pas là pour me faire des amis. Ok, j'irai parce que ça fait plaisir à tout le monde, mais qu'une semaine après, je serai dehors. Je me souviens un peu la nuit avant de rentrer en hospitalisation, j'ai fait ma valise et en fait, j'avais un sentiment de... Je me réjouissais en fait, ce qui était très bizarre. Et je disais à ma mère, mais je comprends pas maman pourquoi je me réjouis, genre je pars pas en vacances, genre là je fais pas ma valise pour les vacances, je fais ma valise pour rentrer à l'hôpital. Du moment où j'ai passé le balai de la porte, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Je me suis dit en fait c'est bon, maintenant genre je suis en sécurité, les pensées noires elles peuvent être là, mais bah, j'aurai moins de possibilités de les mettre en place. Pour l'alimentation, j'y pensais peu, parce que c'était encore assez flou pour moi, mais c'était surtout sur le fait que j'avais l'impression d'être en sécurité. Mais le début de mon hospitalisation a été compliqué, parce que j'ai eu un gros problème de légitimité, où en fait je me considérais pas malade. En fait, personne allait me croire que j'étais malade, parce que j'avais tellement eu de remarques sur mon physique, que du coup, bah, pour moi, c'était clair que personne allait me croire que je souffrais aussi d'anorexie. Jusqu'au jour où bah, un patient, notamment, m'a fait une remarque et m'a demandé pourquoi j'étais là, parce qu'en fait j'avais l'air d'aller super bien. Là ça a été je pense l'ultime coup de massue que je me suis pris, où j'étais là ok mais Emma genre maintenant c'est stop, genre on n'est pas ici pour montrer que tout va bien, on n'est pas ici pour montrer que en fait ma vie est géniale, on n'est pas ici pour être en colonie de vacances, non genre ça va pas, tu l'acceptes, c'est ok. Et donc je pense que ça, malgré le fait que c'était très douloureux, ça m'a beaucoup aidée. Après on m'a posé une sonde nasogastrique, donc qui part, un petit tube en plastique qui part du nez jusqu'à l'estomac, où ça je l'ai de nouveau mal vécu parce que pour moi j'étais pas malade. À ce moment-là j'avais eu des remarques extérieures disant que moi j'aurais jamais besoin de cette sonde parce que j'étais pas anorexique, que mon corps allait très bien et que j'avais pas besoin de ça pour m'aider à manger. Ça a été très douloureux de la poser pour la première fois, mais au final ça a été vraiment quelque chose qui m'a sauvée, parce que du coup j'étais nourrie partiellement par là pendant la nuit, donc ça m'a beaucoup aidée. Ma deuxième hospitalisation, donc celle à Belmont, a duré 3 mois et demi. Maintenant je suis sortie et je fais de l'hôpital de jour. Quand est-ce que j'ai réalisé que j'étais bel et bien malade? Et ben en fait c'est une question très intéressante, mais je crois que je n'ai pas de réponse en fait. J'ai pas de réponse claire parce que c'est un peu une réflexion qui évolue au cours des jours. Je me souviens juste de mon premier soir à Belmont où l'infirmière de nuit est venue me dire bonjour et un peu essayer de me rassurer sur comment se passait l'hospitalisation, qu'elle m'a dit oui mais Emma tu sais tu es malade, et que alors moi là ça a fait le bug. Vraiment, j'étais là, non. Enfin, pour moi, une maladie, c'est une maladie physique. C'est quelqu'un qui se casse la jambe, qui a un problème physique. Mais moi, je ne suis pas malade. Donc je pense que j'ai compris ça au fil de mon hospitalisation. Avoir la sonde, ça m'a aidée au final, ce qui est assez contradictoire, mais ça m'a aidée à comprendre qu'en fait, peut-être que les autres pensent pas que je le suis, mais en fait, si les soignants me disent que je dois mettre une sonde, c'est que, en fait, visiblement, je le suis. Mais c'est un peu une réflexion qui évolue. Et là, depuis que j'ai enlevé la sonde, ça me fait aussi beaucoup réfléchir sur ça, où je me dis que, en fait, oui, genre, j'étais malade et que d'avoir une sonde, c'est pas normal, parce que pour moi, c'était devenu clairement la normalité, où je me voyais tous les jours pendant 5 mois avec cette sonde. Et le jour où je l'ai enlevée, je me suis dit, mais en fait, c'était pas banal, c'est pas un accessoire de mode. Donc je pense que c'est un peu dur pour moi de dire à quel moment j'ai réalisé que j'étais malade. Est-ce que j'en suis convaincue aujourd'hui? Non, pas 100%, mais je sais que j'y travaille et que j'avance. La guérison, c'est pas facile. Je pense que j'ai beaucoup idéalisé la guérison et surtout aussi la sortie d'hospitalisation. Je me suis dit qu'en fait, le jour où je serais sortie, tout ira mieux, tous mes problèmes seraient réglés. Et en fait, non, certes, ça allait mieux, mais c'était pas tout beau, tout rose. La guérison, elle est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et c'est d'accepter qu'en fait, vivre des hauts et des bas, c'est normal. C'est la vie que tout le monde en vit. Ça me fait peur, j'ai assez peur, parce que j'ai un peu la peur. En fait, concrètement, j'ai la peur de jamais m'en sortir et de rester toute ma vie là-dedans. Du coup, ça rend la guérison compliqué, accompagné de beaucoup d'anxiété, ce qui fait que j'ai du mal à accepter quand ça va pas, et j'ai du mal aussi, surtout, à accepter qu'on guérit pas en 2 jours, et que des problèmes de toute une vie ne seront pas guéris en l'espace de 2 jours, et je pense que ça c'est très important d'avoir conscience de ça. Comment j'imagine le futur? En fait, le futur me fait peur. J'ai toujours été une personne qui me suis beaucoup imaginée dans ma vie plus tard, où en fait tout était réglé au mois près, en fait, de quelles études j'allais faire, dans quel pays, où est-ce que j'allais habiter, avec quel ami. Maintenant que, en fait, tout ça s'est écroulé et que bah, tous les plans que j'avais faits, bah, du tout imaginables, j'essaye de ne pas penser au futur parce que ça me fait peur. J'ai beaucoup d'appréhension à l'idée de recommencer des études parce que c'est là où mon TCA a été plus fort que jamais et donc j'ai très peur de retomber là-dedans. Ouais, donc ça me fait extrêmement peur, donc j'essaie de pas y penser. À la fois j'ai peur de guérir et j'ai peur de ne pas guérir. C'est une ambivalence qui est toujours là, où c'est comme avoir un ange et un démon sur chaque épaule. J'ai décidé d'arrêter de penser au futur et de me dire, bah en fait, c'est au jour le jour et je sais pas ce qui va se passer dans 1 heure, donc je sais pas ce qui va passer dans 10 ans. Bah comme j'en parlais auparavant, j'ai été confrontée à pas mal de clichés et de stigmas. Pendant mon enfance, j'ai été confrontée au stigma de, en fait, dès qu'on a peut-être une maigreur un peu plus visible que la norme, entre guillemets, et ben on est considéré comme anorexique. Donc moi, toute mon enfance, on m'a traité d'anorexique alors que bah, j'étais enfant, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Bah, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, donc au fond, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Puis quand j'ai fait ma crise d'ado, enfin mon adolescence, et que mon corps a évolué, et que je me suis ouvert sur mes troubles du comportement alimentaire, et voilà, bah, ça a été la réaction complètement contraire. On m'a dit, tu ne peux pas être anorexique avec le corps que tu as. En fait, les clichés, ils ont toujours été là, toujours été contradictoires. Dès que je mangeais devant les gens, c'était là, mais tu manges tellement, t'es boulimique. Dès que je mangeais pas, c'était, tu manges pas, t'es anorexique. Tu peux pas être anorexique. En fait, les clichés, je crois que je les ai tous eus. Je crois que je les ai passés en revue aussi sur le fait que, vu que je n'avais pas d'acte de purge, je ne pouvais pas être anorexique. Enfin, voilà, je pense que les clichés, je les connais bien. Alors pour lutter contre ces clichés, en ce moment j'ai pas mal d'idées. J'ai toujours été une personne très révoltée. Je ne supporte pas l'injustice, ça m'énerve. Donc depuis que je suis sortie d'hospitalisation, je vois énormément de choses dans notre société qui m'énervent. Notamment toute la promotion de la maigreur, que ce soit les critères un peu de beauté en ce moment. Bah, les personnes les plus représentées dans la société, qui sont quand même les personnages publics, correspondent tous à ces clichés de maigreur. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve, comme la promotion des régimes, du poids, du sport. C'est des choses qui, pour moi, sont extrêmement douloureuses de voir ça avec le recul que j'ai maintenant, mais aussi en me disant que bah, moi, c'est des choses qui ont participé à me faire plonger là-dedans. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est quelque chose d'assez bête, mais qu'on peut tous et toutes faire. C'est rien que sur les réseaux sociaux, signaler les publications qui font de la promotion des troubles du comportement alimentaire ou de la maigreur, pour essayer de un peu faire passer le message que ça peut avoir un impact extrêmement négatif sur des personnes qui en souffrent, ou même ceux qui n'en souffrent pas d'ailleurs. Aussi, j'essaye d'en parler le plus possible autour de moi, d'expliquer qu'en fait, c'est pas un choix, c'est une addiction, c'est une maladie. Je pense que si demain quelqu'un se casse la jambe, on va pas lui dire, bah, essaye de marcher. Non, parce que bah, sa jambe est cassée, elle a besoin de repos. Et pour un trouble du comportement alimentaire, c'est pareil. Je pense que la chose la plus concrète que j'ai pu mettre en place, donc c'est ce podcast avec l'autre Emma, de se dire qu'en fait, il y avait autant de troubles du comportement alimentaire qu'il y avait de personnes qui en souffrent. Et de se dire qu'en fait, donner un accès à la parole à des personnes qui en souffrent, c'est peut-être le meilleur moyen de faire un peu connaître ces maladies, parce que il n'y a pas une maladie qui s'applique à tout le monde, il n'y a pas un comportement qui s'applique à tout le monde, il n'y a pas un physique non plus. Donc je pense que libérer la parole et accueillir des témoignages, je pense que c'est pour moi la chose qui me tient le plus à cœur actuellement. Alors si j'avais un conseil à donner aux personnes qui souffrent de TCA, et je pense que c'est quelque chose que j'aurais voulu entendre dès le début de ma maladie, mais que j'ai entendu, enfin qu'on a essayé de me faire entendre quand je suis rentrée en hospitalisation, il n'y a pas besoin de prouver qu'on est malade. Du moment que mentalement on est malade, le physique c'est presque un détail, où en fait que votre mère, votre père, votre pote ou X ou Y personne ne réalise pas que vous êtes malade à cause de votre physique ou ne vous croit pas, c'est pas une raison pour prouver et se pousser encore plus dans ses retranchements, parce que au fond, la seule personne qu'on enferme là-dedans, c'est nous-mêmes. C'est la seule personne qui aura des conséquences. C'est la seule personne qui va souffrir de ça, parce qu'en fait, le TCA, ça a un impact énorme sur le physique aussi, sur le long terme, parce que le physique endure énormément de souffrances aussi. Donc moi, c'est quelque chose qu'on m'a répété pendant mon hospitalisation, mais arrêtez de vouloir prouver. Du moment que toutes ces pensées sont là, tu es légitime d'être malade, tu es légitime de demander et de recevoir de l'aide sans passer par essayer de prouver à toute la société que tu es malade par ton physique. Je dirais pour finir, C'est un truc où j'aurais voulu que un peu mon entourage le sache. Le trouble du comportement alimentaire, c'est pas un choix. C'est une addiction et une maladie comme les autres. Encore une fois, je reprends mon exemple de la jambe cassée. Personne choisit de se casser une jambe, donc personne choisit de tomber dans un trouble du comportement alimentaire. Que c'est extrêmement dangereux, qu'au fond, c'est une mort lente, que pour moi, c'est pas un jeu. Maintenant, avec le recul, je comprends qu'en fait, je pense que toutes les personnes souffrant de TCA, on est passé pas très loin de la mort, et donc pas très loin du cimetière. Et ça, du moment que j'ai compris ça, ça m'a vraiment prendre conscience de, en fait, ce que j'étais en train de me faire subir à moi-même, et de me dire, en fait, c'est pas un jeu. On a un corps, on peut pas risquer tout ça. Et que, oui, alors, on peut être arrivé à un point catastrophique où tous les médecins vous diront, oui, mais là, c'est extrêmement dangereux, là c'est catastrophique même, et ben en fait c'est jamais trop tard pour demander de l'aide et c'est jamais trop tard pour essayer de s'en sortir. Même si ça prend une de 18 hospitalisations, ce sera toujours quelque chose de bénéfique. Chaque hospitalisation, chaque prise de conscience est quelque chose de bénéfique. La dernière chose que j'aurais à dire, c'est arrêtez de vous comparer, que vous souffriez de TCA ou non. Chacun a un physique différent, chacun a une histoire de vie différente. Chaque physique découle d'une histoire, d'un patrimoine génétique, d'une culture aussi différente. Et qu'en fait, c'est ok d'être différent. Et il faut arrêter de se comparer. Et je pense pour ça, les réseaux, c'est quelque chose de très mauvais, très dangereux, qu'il faut utiliser ça avec beaucoup de pincettes, qu'il faut s'éduquer aussi sur ces sujets-là. Si vous souffrez de TCA ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui en souffre, demandez de l'aide, appelez les numéros d'urgence, contactez les services et les centres spécialisés là-dedans, et c'est jamais trop tard, et c'est, voilà, important.